Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
La geste d'Achille. Oui, Antiquissimo va consacrer énormément d'émissions à ce personnage, car c'est un personnage et non pas une personne, contrairement à ce que dans l'Antiquité, on avait tendance à croire, tellement les héros de la mythologie étaient des modèles considérés comme humains, qui dictaient votre vie, qui habitaient votre vie. On a pu en parler tout récemment avec Amélie Kos, lorsqu'elle évoquait cette lauréate du prix Annie Pesson de la BD Antiquisante, lorsqu'elle évoquait son personnage de Cléos, petit pêcheur grec qui avait pour idole Achille. Et bien donc, j'étais en train de dire, cette geste d'Achille que nous entamons aujourd'hui, nous l'entamons parce qu'il semblerait que Achille soit dans l'air du temps. Je l'ai dit dans la BD, on l'avait déjà rencontré avec le bouclier d'Achille de chez Casterman, mais aussi au Musée de la Romanité, puisque depuis le 26 avril 2024 et jusqu'au 5 janvier 2025, le Musée de la Romanité s'est doté d'une exposition merveilleuse, Achille et la guerre de Troie, dont nous aurons l'occasion de parler abondamment, tellement elle est riche en objets et tellement elle montre que ce mythe, comme tous les mythes, a la peau dure et voyage au travers des temps et se réincarne constamment. Alors justement, ce mythe, il s'est incarné au cinéma, semble-t-il, et c'est tout à fait normal que le 7e art bien engrange avec les personnages de la mythologie antique. Et bien sûr, vous le devinez, mon invité d'aujourd'hui, c'est Claude Aziza. Bonjour Claude Aziza.
Bonjour.
Alors, Claude Aziza, avec sa casquette de professeur de latin, de spécialiste du péplum, et effectivement, je rappellerai à ce sujet qu'il a écrit le dictionnaire du péplum. Alors Claude Aziza, je vous ai demandé de recenser les films qui traitaient du personnage d'Achille, les films dans lesquels on voyait Achille, peu ou prou. Et justement, nous allons découvrir ensemble qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, ce qui me semble très étonnant.
Il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait un recensement assez rapide, il faut bien dire, et au fond, les films où apparaît Achille, où Achille joue un rôle important, se compte quasiment sur les doigts d'une main.
Un peu plus qu'il y en a six,
oui,
dont
six.
Nous allons parler.
Et encore,
six plus un, parce que nous évoquerons...
Cinq plus un.
Nous évoquerons Offenbach.
Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas étonnant. Malgré les apparences, ce n'est pas étonnant. Pourquoi ? Eh bien parce que nous parlons du cinéma ici, nous ne parlons pas d'Homère, ni d'Iliade, ni de l'Odyssée.
Et oui, on rappelle que l'Iliade, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas la guerre de Troie, mais c'est un long poème qui raconte la colère d'Achille.
Et qui commence la dernière année de la guerre de Troie, c'est-à-dire la 10e année. Bon. Alors, au cinéma, si vous voulez, la règle est qu'on est des espèces de duos, de trios. Et il est clair que la plupart des films sur la guerre de Troie ont pour héroïne Hélène de Troie, ce qui est d'ailleurs normal.
Puisqu'en fait, c'est le prétexte à la guerre de Troie.
Oui, c'est un prétexte. On sait très bien que la guerre de Troie, si tant est qu'elle ait eu lieu, n'est qu'une vaste expédition.
Oh, l'archéologie prouve quand même
oui,
si, elle a eu lieu.
Mais c'est une vaste expédition pour des raisons sans doute stratégiques et commerciales. Peu importe. Mais donc, on voit bien que la guerre de Troie, c'est Hélène, et 9 fois sur 10, mais pas 10 fois sur 10, j'en parlerai tout à l'heure, Hélène et Paris. Voilà, on a un couple d'exceptions, qui selon les films d'ailleurs...
Avec complètement dans l'ombre le mari bafoué, Ménélas.
Pas toujours d'ailleurs, mais peu importe, on pourra en reparler. C'est un couple d'exceptions dont le destin est la plupart du temps, mais pas toujours non plus, fatal. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on aura des oppositions à travers les autres films. Évidemment que l'opposition la plus importante, c'est Achille Hector. Pourquoi ? Parce que c'est au fond, c'est le centre
C'est les deux têtes de liste, c'est les chefs d'équipe.
Mais lorsque pour des raisons cinématographiques, mais en même temps pour des raisons de récit, Hector est remplacé par un autre héros, parce qu'Hector n'est plus là.
Ben oui, puisqu'il a été tué par
Achille. Ce héros, c'est Énée. Hein? Et comme on ne peut pas opposer Énée à Achille, on va l'opposer à un autre personnage, Ajax. Ça veut dire que le duo Achille-Hector va être remplacé dans un film, et j'en donnerai les raisons après, par le duo Énée-Ajax. Lequel Ajax, il s'agit évidemment du fils de Télamon. C'est-à-dire le
oui, parce qu'il y a plusieurs Ajax.
Il y a deux Ajax. Bon. Et donc, vous savez bien qui s'est disputé. C'est lui qui voulait avoir les armes d'Achille et il est devenu fou à la suite de ça, puisqu'il a tué un troupeau de moutons, je crois. Bon. Donc, vous voyez que les choses sont un petit peu plus compliquées au cinéma, assez bizarrement, que chez les...
Alors que, je le répète, pour les Grecs et ensuite... Pour tous les gens de l'Antiquité, Achille restera le modèle éternel du bon et beau.
Oui.
Kalos Kagathos.
Ça, c'est un autre problème. Le cinéma, il s'en fiche complètement. Mais en fait, si on regarde les choses, il n'y a qu'un seul film, un seul, consacré à Achille et qui s'appelle d'ailleurs La colère d'Achille. Alors, c'est peut-être sur ce film, par ce film, qu'il faut commencer.
Alors, on va quand même les citer, les six films en question, en disant que celui qui parle le plus d'Achille, c'est quand même La colère d'Achille.
Eh oui,
voilà.
Eh oui.
Ensuite, donc La colère d'Achille, vous me dites si je me trompe, de Marino Girolami, film oui. italien de 1962. Nous évoquerons le 3 de 2004, film américain de Petersen. Évidemment, nous parlerons de Brad Pitt. La guerre de Troie de Giorgio Ferroni en 1961, c'est un film italien, où on le dira tout à l'heure, c'est Énée en fait qui a la vedette, vous en avez un petit peu parlé. Hélène de Troie, 1956, donc on ne les cite pas dans l'ordre chronologique, vous l'avez
non.
compris, mais dans l'ordre de moins en moins d'importance accordée à Achille. Donc Hélène de Troie, 1956, de Robert Wise et Raoul Walsh, film américain dont le héros est vraiment Paris. Ensuite, un téléfilm, mais dont vous direz à quel point il vous semble intéressant, en 2003, Hélène de Troie, qui est sorti juste avant le film Troie, de John Kent Harrison, où c'est Hélène qui a la vedette. Helena de Manfred Noah, 1924, un film assez confidentiel, je crois, germano-autrichien, où Hélène a la vedette. Donc, une fois recensés ces films, et peut-être on aura un petit peu de temps pour Offenbach, l'aspect parodique du mythe, eh bien, reprenons donc le premier, celui que vous évoquiez à l'instant, celui où Achille a le plus de place à l'écran.
Alors, Achille, La colère d'Achille, l'ira di Achille, donc c'est un film italien, et qui finalement, comment dire, pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que le réalisateur Marino Girolami est un réalisateur dont il faut bien dire qu'il est nullissime. Il est né en 1914, il est mort en 1994, il a fait 80 films
oh là là.
Qui sont totalement inconnus. Et il y en a un de 1953 que je n'ai jamais pu voir et qui s'appelle Achille avec nous. Assez bizarrement, je ne crois pas que ce soit le héros. Enfin bref. Il a, comme beaucoup de ses réalisateurs italiens, à un moment donné, là, un instant de grâce, et il fait La colère d'Achille.
Et je pense que le réalisateur est nullissime, mais pas le film.
Pas le film. Je pense que, et là c'est un point sur lequel je voudrais attirer l'attention de vos chers auditeurs et auditrices, c'est que dans ce genre de film, la vedette a une importance capitale. Ça veut dire que dans les années du cinéma italien des années 60, hein, ce qu'on appelle un peu vite les années du péplum, la vedette est forcément, et on va le voir dans deux films, un culturiste.
Oui.
Et on verra que des deux films italiens dont je vais parler, le premier, La colère d'Achille, le culturiste qui joue Achille, s'appelle Gordon Mitchell. Nous avons d'ailleurs parlé de lui
oui.
lors d'une émission
oui.
il y a quelque temps. Gordon Mitchell, et dans la guerre de Troie de Ferroni, le culturiste qui joue Énée, c'est le fabuleux Steve Reeves. Voilà, ça c'est important ça. Gordon Mitchell, Pourquoi ? Eh bien, Gordon Mitchell, c'est un des grands du péplum. Ça veut dire qu'il est intervenu dans énormément de films, et le spectateur, quand il voit Gordon Mitchell, sait de quoi il s'agit. C'est ça qui est important. Ça veut dire qu'on a l'habitude, et c'est aussi amusant, c'est que Hector est joué par un acteur français qu'on a un petit peu perdu de vue, mais qui a eu une grande influence aux États-Unis et en Italie, c'est Jacques Bergerac. Donc ça veut dire qu'on a une coproduction italo-française avec l'histoire d'Achille, avec de très beaux plans oniriques, si vous voulez. On voit Tétis sortir de la mer pour venir parler à son fils, pour lui apporter des armes, pour lui expliquer que s'il continue comme ça, il va mourir. Et il choisit donc... Je pense que c'est un très joli film. Mon seul regret, c'est qu'il est paru en cassette chez René Château, et hélas...
Mais pas en DVD.
Et pas en DVD. Ah. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas l'avoir. Voilà à peu près le seul film vraiment consacré à Achille, mais malheureusement, on ne pourra pas le voir sinon dans une version DVD qui doit se trouver à un prix horrible.
Pharaonique.
Pharaonique sur Amazon. Passons, si vous voulez bien, au deuxième film.
Donc
sur
c'est
lequel...
3 de Peterson.
Voilà.
Alors, 2004.
2004.
Alors bon, on pense tous à Brad Pitt, il faut bien
oui,
le dire.
Et je pense que le Brad Pitt, d'une certaine façon, a mal orienté le film. Ça veut dire qu'on s'est focalisé sur la figure de Brad Pitt en oubliant un certain nombre de choses. Alors... Ces choses-là, je voudrais les rappeler. D'abord, c'est qu'il y a deux versions de Troie.
Avec deux fins différentes.
Voilà. On a une première version qui va durer 153 minutes. Mais en 2007, on a sorti une autre version qui existe d'ailleurs en Blu-ray qui dure 196 minutes. Ça veut dire qu'on a rajouté 30 minutes, 33 minutes et... Dans cette deuxième version, on a une fin alternative, ça veut dire qu'à la fin, contrairement à l'Iliade, contrairement à la première version du film où Achille est tué par Paris, selon la geste homérique, là on a une version où finalement Patrocle n'est pas mort et Patrocle et Achille décident de finalement quitter cette guerre de Troie qui ne les intéresse pas. Ça c'est une première chose. Regardons un peu deux distorsions par rapport à Homer et par rapport aux autres films. On a interrogé Peterson, sur lequel j'irai quelques mots peut-être tout à l'heure, on a interrogé Peterson en disant quand même, dans votre film, les dieux n'apparaissent pas. Alors Peterson...
Chez Homer, ils sont tout le temps là.
Alors Peterson a une double réponse, très intéressante, il dit, écoutez... évidemment, il connaît tous les péplums. Il dit, les dieux apparaissent dans beaucoup de films. Regardez dans Jason et les Argonautes, tout le monde rit. Mais c'est pas réaliste. J'ai donc voulu, parce que j'avais pas les moyens techniques de faire intervenir les dieux, j'ai donc voulu les supprimer, ce qui rend le film plus réaliste. Bon. De nécessité vertu. Et deuxième chose qui est très importante, Patrocle est ici. Le jeune cousin d'Achille, alors que dans l'Iliade, je le rappelle pour les gens qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, Patrocle est le compagnon plus âgé.
Oui, ce qui pose problème.
Ce qui pose problème. Plus âgé qu'Achille. Bon, il n'y a pas d'équivoque chez Peterson sur ces relations. Alors, si on regarde un peu...
Alors que ce n'est pas si simple dans l'Iliade. Bon.
L'Iliade, là, c'est un flou, on va dire. voilà, un flou. Si l'on regarde la distribution du film, et c'est ça qui est intéressant, on s'aperçoit que, finalement, Hector est joué par une grande vedette hollywoodienne, moins grande que Brad Pitt, Eric Bana, que Paris est joué par Orlando Bloom, qu'on avait déjà vu dans la série du Hobbit, que Hélène est jouée par Diane Kruger, Tétis, qui apparaît ici par Julie Christie.
Oui, il y a une belle distribution.
Voilà.
Hein.
Alors, eux et Priam par Peter O'Toole. Alors, je peux vous donner quelques chiffres, parce que je sais que tout le monde adore ça. 480 millions de dollars au box-office, 2 710 000 spectateurs en France. C'est extraordinaire.
C'est colossal.
C'est colossal, mais peut-être que finalement, alors c'est colossal aussi à cause de la renommée du réalisateur, parce que le réalisateur...
Ben, il y a beaucoup de choses quand même, il y a le réalisateur, il y a l'acteur Brad Pitt, il y a la beauté quand même, voilà, des reconstitutions.
Le réalisateur, c'est l'histoire sans fin, c'est ennemi, c'est en pleine tempête, et Brad Pitt d'ailleurs... Donc Brad Pitt n'est qu'à 10 ans de ses débuts, parce que ses vrais débuts, c'est en 94 avec Entretien avec un vampire et Légende d'automne. Hein, voilà. Donc voilà le deuxième film.
Il y aurait beaucoup à dire, mais oui, il est temps de marquer une petite pause musicale. Et comme par hasard, je vous propose la thématique, le thème d'Achille dans la musique du film, justement, 3. Antiquissimo, Achille, héros de péplum, tel est le titre de l'émission que nous sommes en train de construire avec Claude Aziza, où nous cherchons à dépister ces films, ces péplums, où Achille aurait une part importante. En réalité, dans la première partie de l'émission, nous avons vu les deux plus importants. Ceux qui viennent maintenant nous proposent une part bien moindre. Mais il faut d'abord, pour cette musique que vous venez d'entendre, que je rappelle que le compositeur en est l'Américain James Horner. Alors, Claude Aziza, nous poursuivons notre parcours avec le troisième film, le troisième péplum que nous voulions proposer à nos auditeurs.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que La guerre de Troie de Giorgio Ferroni existe en DVD, on peut le voir, et c'est un film très intéressant. C'est un film très intéressant parce que le réalisateur, Giorgio Ferroni, est un grand réalisateur de péplum. En 61, il fait La guerre de Troie. En 64, La terreur des gladiateurs, c'est un film extraordinaire où il n'y a ni terreur ni gladiateur. En 64, Le Colosse de Rome, où il n'y a ni Rome ni Colosse, mais surtout, la même année, il revient sur le mythe d'Hélène, qui s'appelle Hélène, reine de Troie. C'est ce que nous raconte Euripide. En fait, c'est un clone d'Hélène qui est resté à Troie, et Hélène est partie en Égypte. Alors, j'ai déjà expliqué que Achille est là, mais il ne joue pratiquement aucun rôle. Il est là, il fait de la figuration, et que le duel se fait entre Énée, entre deux culturistes d'ailleurs, entre Énée, qui joue le rôle qui est joué par Steve Reeves, et Ajax, qui est joué par la doublure de Steve Reeves dans tous les péplums, qui s'appelle Mimmo Palmar. Et Ulysse, et c'est ça qui est intéressant, est incarné par un acteur américain de la fabuleuse famille des Barrymore, qui s'appelle John Drew Barrymore, qui a toujours incarné les traîtres du péplum et les traîtres du cinéma. Donc Ulysse est le traître, celui qui est Ajax, c'est la brute, et l'homme qui s'élève contre Paris et en même temps pour défendre Troie, c'est Énée. Et le film nous rappelle une chose, c'est que la famille des Priamides a écarté du pouvoir la famille d'Énée, et que la famille d'Énée a régné sur Troie. Donc, vous voyez, c'est un film très intéressant parce que ça nous dit beaucoup de choses, mais Achille ne joue pas grand rôle. Voilà. Voilà pour ce film. Peut-être faut-il maintenant parler du film de 56, Hélène de Troie. Et si j'en parle, c'est un film formidable. D'abord, c'est un film formidable parce qu'il a une particularité. Et on s'étonne que Robert Wise, Raoul Walsh, qui sont aidés par Sergio Leone, n'aient pas fait attention. C'est qu'au moment où Hélène et Paris sont étendus sur la plage, on voit passer un avion à réaction. Ce qui est un peu gênant. Deuxième particularité, c'est qu'il y a une jeune fille qui est là, qui s'appelle Andrast, et qui est là... La dame de compagnie de Rosana Podesta qui joue Hélène, et cette jeune fille, c'est quasiment son premier rôle, c'est Brigitte Bardot. Donc tout ça, c'est bien. Et dans ce couple d'exception, hein, les vedettes, c'est Rosana Podesta qui fait Hélène, Jacques Cernas, très beau, qui fait Paris, et Achille, dans l'Assemblée des Rois, intervient, il est joué par une brute, mais un acteur anglais très célèbre qui s'appelle Stanley Baker, hein, et qu'on voit beaucoup, et il est là, mais c'est une brute, comment dire, c'est une brute héroïque et en même temps honnête, si vous voulez.
Donc il bonne brute, quoi.
Voilà, il s'élève contre les prétentions d'Agamemnon, contre la ruse et Ulysse qui dit on va absolument, et donc il a le rôle d'un héros, c'est-à-dire qu'il est honnête, et en disant, bon, je suis tenu par un serment, j'y participerai, mais ce que vous faites n'est pas bien. Donc, c'est quand même assez intéressant.
Mais dites-moi, Claude Aziza, c'est bien un film américain.
C'est un film américain, oui. Et qui alors... a été tourné totalement en Italie, mais c'est un film
voilà,
américain.
Voilà, tourné en Italie, ça c'est normal,
oui,
j'allais dire.
C'est un film américain.
Mais alors, les acteurs français, là, qu'est-ce qu'ils viennent faire?
Ah ben, il n'y a pas d'acteurs français.
Ah, il n'y a pas d'acteurs français.
Il y a Rosana Podesta, qui est une Italienne. Oui, Brigitte Bardot.
Oui,
fait...
voilà, c'est Brigitte Bardot.
Il y a Jacques Cernas, qui est un acteur.
Ben Jacques Cernas.
Oui, mais qui est un acteur français, mais qui a quitté la France, qui tourne en Italie. Stanley Baker, qui est un acteur anglais, si je ne m'abuse.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est une coproduction, mais qui se tourne en Italie pour des raisons sans doute financières. Et puis, Wise et Walsh sont quasiment en fin de carrière, il faut bien le dire. Voilà. Nous restons maintenant le téléfilm, qui est intéressant parce qu'il est sorti une année avant...
Oui, 2003.
Il est sorti en 2003. Le réalisateur est Kent Harrison. Achille existe. Il n'y a pas de colère d'Achille. Il est joué par un acteur américain très célèbre qui s'appelle Joe Montana. Donc c'est important, les acteurs. Et je pense que c'est une très belle histoire. Moi, j'aime beaucoup ce téléfilm qui s'étend depuis la jeunesse d'Hélène.
On peut le voir facilement.
Oui, il est en DVD. Depuis la jeunesse d'Hélène jusqu'à la fin, on voit toute l'histoire d'Hélène. Ménélas n'est pas du tout une brute. Hein, c'est le blond Ménélas, comme dit Homère, oui, qui est amoureux de sa femme. On voit comment Hélène a été séduite par Thésée. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Hélène a eu beaucoup d'aventures.
C'est quand même la plus belle des femmes. Hein.
Voilà.
L'objet du jugement de Paris.
J'ai beaucoup de sympathie pour ce téléfilm qui a été étouffé par le film de Peterson, forcément. Mais qu'on trouve très facilement en téléfilm. Voilà à peu près, et si l'on veut rajouter une petite note cinéphilique, en 1924, on a une production qui dure 3h30, Elena de Manfred Noah, une production assez extraordinaire, malheureusement, elle arrive au moment donné où on va passer au parlant, et tous les films...
Ah, c'est un muet.
Eh oui, 1924, oui. Tous les péplums qui sortent en 24 et 25, les derniers jours de Pompéi, qu'on va dire, etc., sont des péplums massacrés parce qu'on en a assez. Après la guerre, on en a assez de tous ces films-là et il faudra attendre le retour au parlant avec des versions parlantes pour quelques-unes. Hein. Alors, Manfred Noah est sorti à la télévision. On doit peut-être le retrouver. Hélène de Manfred Noah. Elena, c'est un film admirable. Mais Achille...
Non, mais 3 heures, c'est un peu long quand
3h30.
Même. 3h30.
Non, c'est pas un peu long. Mais Achille, là, n'a quasiment... Il est joué, d'ailleurs, par un acteur qui s'appelle, que je ne connais pas, qui s'appelle Carlo Aldini. Mais Achille n'a quasiment que le... Même pas, c'est une ombre qui passe au milieu de ce film. Voilà. Et puis reste maintenant, le plus important, c'est la belle Hélène.
Arrêtons-nous quelques instants.
Je suis le bouilla d'Achille, bouilla d'Achille, bouilla d'Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouilla d'Achille, bouilla d'Achille, bouilla d'Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon. Le grand Myrmidon. Je
suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas, ne me fasse de la peine, n'en s'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Le roi Ménélas, le roi Ménélas.
C'était donc l'opérette d'Offenbach et on a pu voir arriver à grand bruit le roi des Myrmidons, le bouillant Achille. Alors là, on est du côté, Claude Aziza, pour terminer cette émission, on est du côté de la parodie. Joyeuse, exubérante.
Oui et non.
Bon.
Justement, oui et non. Alors, il faut savoir plusieurs choses là-dessus sur la belle Hélène. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me prendrait des heures. Mais
et on n'a pas le temps.
Et on n'a pas le temps. C'est un film, c'est une opérette de 1864, c'est-à-dire au moment où l'Empire, le Second Empire, est en plein éclat. Offenbach s'adresse à un public cultivé. Ça veut dire que tout le monde sait ce que ça veut dire le plongeon et le talent. Hein, c'est un public qui connaît très bien la mythologie.
C'est-à-dire l'histoire d'Achille,
voilà.
Retenue par sa mère, par son talon.
Il a beaucoup de critiques, Offenbach, pour une raison très simple, c'est que cette belle Hélène, qui est une parodie, arrive au moment d'un néoclassicisme et tous les amateurs d'antiquité vont lui tomber dessus. Mais d'antiquité sérieuse, ils s'en fichent. Mais surtout, et c'est le deuxième volet le plus important, ça s'adresse aux femmes de la cour impériale et c'est un éloge déguisé d'une émancipation féminine avant la lettre. Ça veut dire que cette Hélène, qui choisit son amant, qui cocufie le
son
roi
mari.
Ménélas, c'est peut-être une leçon, si l'on peut dire, de frivolité pour toutes ces dames. À tel point même que l'impératrice Eugénie de Montijo, dont on nous disait d'ailleurs qu'elle était catholique et bornée, était la grande amie de Mérimée, enfin la maman, sa maman était amie de Mérimée, donc a été extrêmement choquée. Mais Napoléon III, qui était finalement, et son demi-frère, le duc de Morny, qui aimait beaucoup ça, le duc de Morny, qui avait collaboré d'ailleurs avec Offenbach à autre chose. Voilà, donc c'est très important, la belle Hélène, et évidemment le cœur des rois, Achille n'a ici qu'un rôle un peu caricatural,
burlesque.
Il n'a aucun rôle, il a un rôle burlesque, parce qu'on ne le verra plus. Après, on verra Hélène, Ménélas et Paris, bien entendu. Voilà.
Merci beaucoup pour ce petit détour par le cinéma, et puis pour finir par l'opérette. Et puis, à la prochaine fois.
À la prochaine. Merci.